Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
J'aimerais bien qu'on pose nos armes et qu'on discute.
Bon, bah lui, il va me prendre la tête.
Jack, je veux que vous me dessiniez comme une de vos françaises.
Ben non, c'est chouchou, je veux, pas la moche.
Zut, re-zut et re-zut derrière.
Ah, je vois, monsieur se fout de moi, monsieur fait d'ironie.
Mais où est-ce que vous vous croyez, merde? Au cirque?
Ben ça, c'est du spectacle.
Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer.
All this beautiful, le vieux, c'est beau et croyez-moi, je sais de quoi je parle. Salut les amis.
Hello.
Il est encore là, le vieux, là. Oh, il nous a cassé les bonbons. Mais qu'est-ce qu'il a? Il a des abonnements dans son panier ou il a quoi, là? Bon.
Oh bah, j'ai des abonnements plus. Dans mon panier.
Oh, le tempo, il n'y a rien qui va. C'est la décadence.
Bon, Alexis, rappelle-nous très rapidement, parce que si vous ne le savez, si vous n'avez pas écouté l'épisode de vendredi ou les épisodes de la semaine dernière, ce qui est tout à fait possible, nous avons lancé depuis la semaine dernière des abonnements à Cast Plus. Vous pouvez nous soutenir. Les épisodes, si vous ne le faites pas, et ça n'est pas grave, et on vous aime quand même, vous continuerez à avoir accès exactement au même contenu. Mais Alexis, vous pouvez faire un petit geste au portefeuille pour avoir moins de publicité ou du contenu inédit.
Oui, si vous souhaitez soutenir financièrement l'émission et bénéficier du coup d'avantages exclusifs, bah, vous pouvez cliquer sur le lien qui est dans la description et aller choisir une formule d'abonnement sur Acast Plus, donc la plateforme mise en place par Acast, la société qui héberge Réaliser sans trucage, et qui donc permet bah, du coup aux abonnés de soutenir les émissions moyennant rétribution. Donc les avantages, je vais les lister très rapidement. La suppression des publicités sur tous les épisodes, tous, sans aucune exception. Un accès anticipé à certains formats, comme les épisodes du mardi. D'ailleurs, cet épisode-là, peut-être que vous l'écoutez avant sa sortie gratuite, parce que vous êtes déjà abonné. Ce sera le cas aussi pour les top flops de fin d'année, qui sortiront avec quelques jours d'avance. Et puis, bah, un accès à du contenu exclusif à raison d'un épisode par semaine à compter de janvier 2024. Et si vous optez pour la formule la plus chère, donc la formule la plus complète, qui est à 6€ TTC par mois, avec le code RST50, vous pouvez bénéficier d'une réduction de 50% sur les deux premiers mois, qui seront du coup à 3€ TTC au lieu de 6, mais le code n'est valable que jusqu'au 2 février 2024.
Voilà, et si vous voulez en savoir plus, eh bien on a expliqué ça, tout ça en longueur et avec toutes les précisions possibles dans l'épisode de vendredi dernier.
Tout à fait.
Est-ce que vous voulez savoir un truc hyper sympa et fun sur Noël?
Ah, vas-y, oui.
Eh bien, contrairement aux idées reçues, ce n'est pas du tout la période de l'année où le taux de suicide est le plus élevé.
Ah!
Ah ouais?
C'est quand? Le nouvel an?
Alors, en fait, il n'y a pas véritablement de période. Il y a néanmoins un syndrome dépressif qui est lié au fait, parce que ben, voilà, l'injonction au bonheur, à retrouver les siens, ses proches, ça peut être très douloureux, notamment quand on est seul. Alors, permettez-moi à titre personnel et puis au nom de l'équipe d'envoyer une pensée très sincère et très affectueuse à toutes celles et à tous ceux de nos amis auditeurs et auditrices qui nous écoutent et qui peuvent se sentir isolés, qui peuvent se sentir parfois ben, un peu à côté de la plaque parce que c'est des périodes pas forcément faciles. Voilà, moi, je sais que ça a pu m'arriver à certains moments. Et donc, moi, voilà, on pense à vous, on vous envoie plein de bisous, plein de conseils aussi pour regarder, profitez-en pour regarder des films qui vont vous mettre un peu de bon au cœur, des films dont on a pu parler. Mais en tout cas, on pense fort à vous et on vous fait des gros bisous. Et si je parle de tout ça, bah, c'est parce que précisément, c'est le point de départ de notre film de patrimoine de la semaine. Et non, désolé, ce n'est pas Le Père Noël à des grosses boules.
Well, who are you? I told you, George, I'm your guardian angel.
What is it you want, Barry? You want the moon? Just say the word and I'll throw a lasso around it and pull it down.
Welcome home, Mr. Bailey.
Sentimental hogwash.
I wish I had $1 million. Hot dog!
La vie est belle de Frank Capra avec James Stewart et Donna Reed qui est disponible en Blu-ray 4K chez Paramount Pictures. Et comme eh bien, à chaque épisode de Patrimoine, avant de parler de ce film de 1946, qui est intéressant parce que c'est évidemment un grand classique des films de Noël, c'est l'un des plus diffusés d'ailleurs à la télévision américaine, mm-hmm. avec Le Magicien d'Oz.
Oui.
Voilà. Mais Alexis, tu vas nous dire un mot sur Capra pour nous raconter un peu qui il est, quelle est sa filmographie.
Ouais, parce que je pense qu'il faut faire un petit point biographie concernant Capra, parce que la vie personnelle de Frank Capra a, à mon sens, beaucoup, beaucoup d'influence sur sa créativité en tant que cinéaste, et tout particulièrement sur La Vie est Belle. Donc Frank Capra, de son nom complet Francisco Rosario Capra, il est né en Sicile en 1897. C'est donc un Italien naturalisé américain a posteriori, puisque sa famille, qui est une famille de pauvres paysans, va, comme des millions d'Italiens au début du XXe siècle, émigrer vers les États-Unis, avec évidemment en tête l'Amérique comme la terre des opportunités, the land of the free, là où on peut vivre le rêve américain. Et donc Capra, il va démarrer sa carrière dans l'industrie cinématographique à l'époque du cinéma muet, où il va travailler comme scénariste et comme gagman, métier complètement désuet aujourd'hui, voilà, comme inventeur de gags pour un très très grand acteur, cinéaste et producteur de l'ère muette d'Hollywood qui s'appelle Max Sennett. Grâce à cette expérience et sa proximité vis-à-vis de Sennett, on va lui confier un premier long qui aura beaucoup de succès, un film muet de Strong Man qui sortira en 1926, donc juste avant la bascule au parlant qui a lieu l'année suivante avec le chanteur de jazz. Mais en vérité, Capra, c'est surtout un cinéaste qui est connu pour sa période parlante, c'est un très grand cinéaste de l'âge d'or d'Hollywood, et il y a une décennie, grosso modo, dans sa carrière qui est vraiment une période bénie pour lui, où il va enchaîner que des grands films, en partant de L'extravagant Mr. Deeds en 1936, qui va transformer sa carrière et faire de lui un cinéaste très important, jusqu'à, bah, du coup, La vie est belle, en 1946, pile poil 10 ans après, sans oublier, et ça, il faudra qu'on y revienne, une série documentaire très importante qu'il va superviser, la série des Why We Fight, une série de 7 films, si ma mémoire est bonne, entre 42 et 45. Faut le dire, c'est une série documentaire propagandiste qui vise à soutenir l'effort de guerre des États-Unis d'Amérique lors de la Seconde Guerre mondiale. Et ce rapport à la guerre, on va le voir, est très important pour Capra, y compris dans La vie est belle. Et Capra, en gros, pour résumer, c'est un cinéaste qui, parce que né italien, c'est un cinéaste américain, qui a donc regardé pendant les premières années de sa vie l'Amérique à distance, comme un pays qui n'était pas le sien, comme une culture qui n'était pas la sienne. Et ça, ça va lui offrir, je pense, une sorte de recul, une certaine distance critique qui va lui permettre d'ausculter l'Amérique avec un regard très particulier, puisque en gros, pour résumer, l'Amérique selon Capra, sur le papier, c'est le meilleur pays du monde parce qu'il a été fondé sur des grands principes et des grandes valeurs humanistes, inclusives, égalitaires. Sauf que dans les faits, ces grandes valeurs-là et ces grands principes, ils ont été bafoués, corrompus, transgressés par les institutions américaines. Et pour que l'Amérique retrouve sa grandeur, il faudrait bah, non pas qu'elle devienne une puissance dictatoriale néolibérale comme l'entend Donald Trump quand il parle de la grandeur de l'Amérique, mais plutôt qu'elle renoue avec les principes sur lesquels elle s'est fondée. Voilà la base, grosso modo, pour comprendre qui est Frank Capra et ce qu'il nous dit dans son cinéma.
Et donc, eh bien, La vie est belle fait partie de cette décennie merveilleuse des années 40, dans laquelle on compte aussi Arsenic et vieille dentelle, ouais. Mr. Smith au Sénat, enfin des très grands films. Est-ce que on peut, c'est intéressant, peut-être Simon, sur La vie est belle, puisque c'est un film qui est apparenté d'assez loin, mais tout de même, avec le fameux Christmas Carol de Dickens, Le Chant de Noël, puisque c'est l'adaptation d'une nouvelle qui elle-même s'inspire d'eux.
Bah, disons que le film va rejoindre cette grande tradition du récit de Noël, du récit de fête, du récit lié à des instances symboliques culturelles, qu'on y fait intervenir le surnaturel très facilement. Pourquoi ? Parce que donc, on va suivre un personnage qui se retrouve endetté, convaincu d'avoir raté sa vie et convaincu que ce qu'il attend est encore bien pire à la veille de Noël et qui envisage donc assez sereinement le suicide. Et bien donc, il y a Clarence, un ange de seconde catégorie, mais très littéralement un ange de seconde division qui va descendre sur Terre pour essayer de lui montrer, de lui expliquer, de lui donner à comprendre que bah non quand même, c'est pas la peine de se faire sauter le caisson, il y a des trucs bien plus rigolos à faire comme aller troller Anémone au téléphone. Mais en fait, ce que je veux dire, c'est que le film ne fait pas grand cas du fait qu'il y ait du surnaturel. C'est très simple, c'est très évident. Et Clarence, on nous le présente d'ailleurs, et pour moi, c'est un des coups de génie du film de Capra, on ne nous le présente pas comme dans Les ailes du désir, un espèce d'angelot stylisé, un type avec des ailes ou quelqu'un qui aurait une très grande prestance. Clarence, c'est un gros poivreau, quoi.
Oui, complètement, complètement.
Ouais, mais ça amène plein de choses. Et avant de repasser la parole à mes petits camarades, c'est peut-être ça qui est le plus passionnant avec Capra. On dit souvent, certes à raison, que c'est un grand, grand, grand humaniste, un grand idéaliste. C'est vrai. Mais ça n'est pas que ça. Capra, tu l'as dit, c'est un type qui est arrivé jeune aux États-Unis et qui, à la fois dans l'Amérique, la foi du converti. Quelqu'un qui se convertit à une idée politique, qui se convertit à une idée religieuse. En général, il est bien plus excessif ou à fond que ceux qui ont reçu ça en héritage culturel. Lui, c'est comme ça aussi. Il adore les États-Unis. Il adore les valeurs américaines. Mais il vient d'Europe. Et donc, il amène le tragique européen. Et donc, encore une fois, on n'arrête pas de dire, on n'arrête pas de répéter « Oh là là, Capra, l'humaniste !» Et effectivement, normalement, la fin de La vie est belle, ça vous cueille, vous croyez en l'humanité, vous pleurez, vous avez envie d'aller à l'église, de faire bénir vos enfants, Inch'Allah dimanche. Sauf que avant ça, vous allez être confronté à une certaine idée de la noirceur, de la corruption des êtres. Et si notre héros, il a envie de se tirer une balle, c'est qu'il y a de quoi se tirer une balle. Et donc voilà, Capra a ceci de magnifique que c'est, on va dire, l'idéalisme parfois un peu bené ou en tout cas jusqu'au boutiste américain et le tragique européen qui se rencontrent. Mais c'est vraiment les deux.
Oui, parce qu'il faut préciser que cet ange va montrer au personnage de James Stewart, à George, ce que serait le monde si lui n'avait pas été là.
Oui, et ça, c'est une idée magnifique.
Voilà.
L'idée, c'est pas genre, c'est un péché de se suicider, c'est mal de se suicider, c'est, mais regarde, si tu n'étais pas là, tu manquerais au monde. C'est une idée, alors très individualiste, mais finalement qui est toute simple, qui est très poétique, c'est, regarde comme le monde serait moins le monde si tu n'étais pas là. Et c'est quand même un truc quand même de réussir à te faire un récit de Noël qui te réchauffe le cœur avec quelqu'un qui a vraiment très très envie de se tirer une balle. Quoi.
Ouais. Mais c'est pour ça que je parlais du récit du conte de Noël de Dickens, parce que le conte de Noël de Dickens, c'est d'une noirceur absolue. Vous en avez certainement vu, il y en a des milliers de versions. Moi, celle de mon époque, c'était celle de Disney.
Et avec Mickey
et les béquilles. Et mon Dieu! Et puis la noirceur du fantôme des Noëls futurs. Je veux dire, le conte de Dickens lui-même, moi je l'ai vu en comédie musicale.
Même la version des Muppets, elle est dark.
Ouais.
La vie est belle, Sophie?
La vie est triste. La vie est.
Mais elle est belle.
Elle est belle.
Elle est triste.
Mais ça peut durer longtemps. Ouais. pour moi, ça fait partie de cette toute petite catégorie de films parfaits. C'est-à-dire que pour moi, La vie est belle est un film parfait de A à Z, que ce soit dans sa narration, dans l'originalité de sa narration, notamment sur le fait, là on a beaucoup parlé du phénomène de l'ange, il faut savoir que même si c'est le postulat de départ, la construction scénaristique du film est d'une modernité incroyable. C'est-à-dire qu'on part de planètes, d'espèces de formes qui scintillent dans l'espace et qui parlent de cet homme sur Terre, un parmi tant d'autres, mais dont on va regarder la vie, mais avec un sens du montage particulier, à savoir qu'on va faire des pauses, que ces étoiles, ces êtres supérieurs vont être les narrateurs, tantôt commenter sa vie, dire qu'on l'apprécie, que c'est d'abord un enfant, puis un jeune homme très spécial. Et donc déjà là, il y a un impact sur le modèle narratif classique et scénaristique complètement inédit. Et ça va jusqu'à l'émotion pure et sincère que le film va procurer. Il y a un truc qui m'interroge un petit peu, je voulais vérifier la date, mais il y a un autre film d'Ange qui est sorti la même année. Et c'est quand même rare, hein, parce que si vous tapez film Ange,
il
n'y en a pas des masses. Il y en a un qui est absolument incroyable, qui est Une question de vie ou de mort de Michael Powell. Powell, que vous connaissez peut-être pour Les Chaussons Rouges, qui est son film le plus connu.
Et le voyeur,
évidemment, Peeping Tom. Et en fait, c'est aussi un film où le surnaturel va s'intégrer, puisque c'est un pilote d'avion qui aurait dû mourir au combat et qui, finalement, est ramené plus ou moins à la vie. Et un ange doit aller le chercher. Et pareil, il y a une question de rédemption.
Okay.
Et ce qui m'interroge, c'est qu'il y a un rapport notamment à la guerre. Les deux films parlent évidemment de la guerre, sauf qu'il y a un film qui est britannique et un film qui est américain. Et ils vont traiter ce sujet-là, et notamment avec une espèce de dédramatisation malgré tout de la mort, parce que on offre une possibilité en plus. En fait, c'est des personnages qui sont vraiment moteurs sur leur vie et sur la vie de leur entourage. Il y a plus du tout de fatalité, ce qui est hyper intéressant psychologiquement et sociologiquement quand on est en période de guerre ou post-guerre, de savoir qu'on va révoquer le fatalisme et qu'on va donner la place à l'humain un vrai impact. Et là, le fait que ce soit aussi présent dans le scénario et dans la manière de narrer la vie de quelqu'un, je trouve que c'est assez merveilleux. C'est-à-dire que c'est, même par sa forme, il va redonner une espèce de foi en l'humanité. C'est pour ça que c'est un parfait film de Noël. C'est que c'est un film où on se dit, ok, je peux y arriver. Le monde peut s'effondrer. Si on est avec des gens qu'on aime, on peut y arriver. Et ça, je trouve que dans une période historique aussi noire, ça crée des œuvres magnifiques. Qui n'a pas pleuré devant La vie est belle, sérieux?
Bah, les nazis, déjà.
Est-ce qu'ils ont vu le film?
Pas tous.
Peu.
Arthur.
Bah, moi, ce qui est intéressant, c'est que, pour être tout à fait transparent avec vous, c'est un film que j'ai découvert il y a 2-3 jours, parce qu'il y a quelque chose qu'il faut dire, c'est que c'est un classique américain. Pas instantanément. Quand le film sort, de ce que j'ai cru comprendre, le box-office n'est pas au rendez-vous, ouais, la critique le défonce.
On en reparlera, mais oui, t'as raison.
C'est devenu un classique 30 ans plus tard dans les années 70.
Exactement. En fait, la critique le défonce parce qu'il le trouve trop mièvre et trop avec trop de sentiments, etc. Mais par contre, c'est devenu un vrai classique américain. Pour beaucoup d'Américains, c'est le film de Noël ultime. C'est pas forcément quelque chose qu'on a en France. Enfin, peut-être que je me trompe, mais moi, j'avais pas la sensation que c'était un film que tous les Français avaient vu au moins 2, 3, 4, 5 fois dans leur vie. Vraiment pas. Ce qui est intéressant, c'est que du coup, moi je découvre comme je découvrirais n'importe quel film de cette époque-là. Et je comprends et je perçois comment on a pu faire de ce film le film de Noël ultime. Et effectivement, étrangement, je trouvais que ce que Simon disait tout à l'heure sur ce que le film raconte de son époque, de la cruauté de la société, du capitalisme et des institutions, etc., c'est extrêmement puissant. Mais en fait, c'est vraiment, mais comme tout le monde, je pense, la dernière partie qui m'attrape le plus, c'est la partie où l'ange le fait vivre la vie sans lui. Et c'est là où il se passe quelque chose vraiment de l'ordre de l'émotion, de plus pur, en fait. Et c'est pas anodin que ce soit devenu ce film-là... la représentation du film de Noël. J'ai un peu fouillé sur Letterboxd parce que vous savez, hein, j'aime beaucoup Letterboxd.
Et tu lui mens d'ailleurs assez régulièrement.
Je quoi ?
Tu lui mens d'ailleurs assez régulièrement.
Je vois pas de quoi tu parles.
Princesse Mononoke.
Je vois pas de quoi tu parles. Je l'ai vu. Tu veux que je te montre mon agenda Letterboxd ? Je l'ai
Continue.
Vu. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que moi, je suis pas mal de journalistes américains et de comptes américains. Et en fait, tout le monde met 5 étoiles et tout le monde met des commentaires du type « Dès que je vois ce film, j'ai envie d'appeler ma mère pour dire que je l'aime. » Dès que je vois ce film, ça me rappelle les Noëls que j'ai passés. Et en fait, c'est fou la puissance qu'a pu avoir ce film a posteriori. Et comment ce film a pu être récupéré, donc 30 ans plus tard, tu disais, Simon ?
Oui, c'est dans les années 70, au moment des diffusions télé.
Bah ouais, les diffusions télé au moment de Noël qui vont le faire exploser, quoi.
Et c'est fou parce que bah, nous aussi, on en a, mais disons que bah, La Grande Vadrouille, c'est pas aussi...
Bah non, c'est pas le même niveau.
Mais en fait, ce serait un peu notre équivalent de la grande comédie populaire qui parle à tout le monde, qui a été surdiffusée à la télévision, et notamment au moment des fêtes. Enfin, je dis ça en blaguant, mais cela étant dit, c'est un peu ça.
Le Père Noël est une ordure.
Ah bah c'est le Père Noël est une ordure.
Ouais, c'est le Père Noël est une ordure. Hein. Mais c'est pas le même acabit.
C'est pas la même chose.
Non, en fait, il faut s'attarder un petit peu sur l'emplacement de La vie est belle dans la filmographie de Frank Capra, parce que vous l'avez dit, c'est un film qui est pas un grand succès au moment de sa sortie. La critique va un peu lui taper dessus parce qu'il trouve que c'est un film niais. Et en fait, c'est surtout que c'est le point final de la décennie enchantée de Frank Capra à Hollywood, puisqu'à partir de La vie est belle, bon bah les films sont moins intéressants, de fait ils sont moins connus, et assez rapidement, je crois que c'est une échelle de à peu près une quinzaine d'années, Frank Capra va raccrocher et arrêter de réaliser des films.
C'est après 61, grosso modo.
Oui, c'est ça, voilà. Le truc, c'est que il s'était passé un peu la même chose en 1934, donc juste avant la sortie de L'Extravagant Mr Deeds, avec un film qui lui aussi, avec le temps, est devenu un film culte, qui s'appelle New York Miami, avec notamment Clark Gable, qui est un film que Frank Capra va tourner dans la hâte, ça va très mal se passer, le film va être complètement sacrifié lors de sa distribution, et puis 2 ans après, il a l'opportunité de se refaire avec Mr Deeds, et là c'est parti. Et le truc, c'est que moi, ce que je trouve intéressant avec La vie est belle, c'est que c'est un film qui dialogue avec un autre film que Capra a réalisé en 1939, l'année où l'Europe entre en guerre, mais où les États-Unis, eux, sont persuadés qu'ils vont passer à côté, puisque Pearl Harbor n'a pas encore été attaqué. Ce sera 2 ans plus tard, en 1941. C'est un film que je trouve absolument gigantesque. Je le préfère même un tout petit peu à La vie est belle, pour être honnête. C'est Mr. Smith au Sénat, toujours avec James Stewart. Ouais. Et ce qui est intéressant, c'est que les deux films dialoguent sur la nature de leurs personnages. Le personnage de Jefferson Smith, tout comme le personnage de George Bailey, donc le héros de La vie est belle, sont des personnages idéalistes qui croient dur comme fer dans les valeurs de l'Amérique, mais qui surtout sont persuadés que les valeurs de l'Amérique de l'époque sont encore totalement en phase avec l'Amérique d'aujourd'hui, qui ne voit pas le problème.
Et elles sont toujours opérantes, en fait.
C'est ça. Les deux vont être confrontés à la dure réalité, qui est que ces valeurs-là n'ont plus cours. Et qu'aujourd'hui, les hommes d'affaires, les institutions, en bref, les puissants, piétinent ces valeurs. Sauf que dans Mr. Smith au Sénat, on a un personnage principal qui est le seul idéaliste du film, mais qui ne cessera jamais d'être idéaliste. Jusqu'à la fin, il restera cramponné à ses valeurs, et de fait, ça lui permettra de triompher.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Dans La vie est belle, on a un personnage qui est un idéaliste, qui à la fin aura l'opportunité de le redevenir, mais qui va progressivement tout le long du film devenir de plus en plus noir, de plus en plus pessimiste, de plus en plus méchant, de plus en plus cruel, de plus en plus insensible au sort des autres, qui va en bref devenir la quintessence de l'égoïsme. Et c'est pour cette raison-là que l'ange va le confronter à ce que serait le monde sans lui pour lui montrer à quel point il a tort d'être égoïste et à quel point c'est son absence d'égoïsme jusqu'à présent qui a fait lui quelqu'un de bien. Il faut comprendre que cette noirceur-là, moi j'en suis persuadé, vient de la guerre. Au début du film, on est en l'an 1919, George Bailey est encore un enfant et il travaille pour un épicier, un vieil épicier dans le centre-ville qui a l'air de prime abord d'être quelqu'un de vraiment méchant, violent, quelqu'un dont il ne faut pas s'approcher. Et en fait, George va tomber sur un télégramme, et je vous dis ça, c'est vraiment les 10 premières minutes du film. Il tombe sur un télégramme qui dit « Votre fils est décédé d'une épidémie de grippe ». Évidemment, le télégramme fait référence à l'épidémie de grippe espagnole qui a ravagé l'Europe juste après la Première Guerre mondiale en 1919, et les États-Unis par ricochet. Et donc, en fait, on comprend que ce vieil homme acariâtre et méchant, en fait, il est juste dévasté d'avoir perdu son fils. Bon, bah, imaginez pour le public américain, en 46, littéralement, un an après la fin de la Seconde Guerre mondiale, voir à l'image, en gros plan, un télégramme de l'État américain qui annonce à un père de famille que son fils est mort, même si dans le film, c'est la grippe espagnole, tous les Américains y voient le fantôme de la Seconde Guerre mondiale et les traumatismes de la Seconde Guerre mondiale. Et en fait, on a un film qui nous dit « Le monde est dévasté et l'Amérique n'est pas à la hauteur ». L'Amérique n'est pas capable d'être à la hauteur du défi parce que l'Amérique ne croit plus dans les valeurs profondément pacifistes, il faut le dire, qui ont fait sa fondation. Il faut renouer avec ces valeurs-là. Donc c'est le même pitch que Mr. Smith au Sénat, sauf que c'est beaucoup, beaucoup plus sombre et beaucoup plus ambigu. Et c'est là où je trouve que les deux films dialoguent super bien. Donc si vous avez l'occasion de voir aussi Mr. Smith au Sénat, il existe également en Blu-ray, voyez-le parce que c'est vraiment un immanquable.
Simon.
Je suis tout à fait d'accord avec toi, Alexis. Ce qui est assez intéressant aussi, assez tragique finalement, c'est qu'à bien des égards, le film nous dit quelque chose de l'état d'esprit de Capra à ce moment-là. Capra, il a longtemps travaillé sur la série documentaire de propagande dont tu as parlé, Why We Fight, des années littéralement, avec l'armée américaine. Et donc, bah, quand la guerre se termine, il revient à Hollywood. En attendant, Hollywood s'est quand même pas mal transformé. Les studios ont augmenté énormément leur pouvoir, leur prise sur la fabrication des films. On va dire les stars, les acteurs, les metteurs en scène sont devenus moins importants encore qu'ils ne l'étaient. Bref, il ne reconnaît pas exactement l'endroit où il se trouve et il décide de monter sa boîte de production. Parce que comme ça, il sera à nouveau libre, il pourra à nouveau, alors à l'époque, on ne parle pas encore de politique des auteurs, mais il emploie un terme, un vocable qu'il annonce, il dit « un film, c'est l'affaire d'un homme ». Pas d'un homme, dans le sous-entendu, un type avec des roubignoles, mais un film, c'est l'affaire d'un regard, c'est l'affaire d'une vision. Et donc, il va monter sa boîte de prod, il va travailler, je crois, pendant presque un an au total sur le scénario. Il va notamment faire monter à bord Dalton Trumbo, une des futures victimes du McCarthyisme, immense, immense scénariste, qui fut notamment à l'œuvre sur Spartacus. Bref, il va faire le film dont il rêve. Il a d'abord trouvé le matériel original, il se dit wow, « je veux absolument adapter ça ». Il va affiner son adaptation jusqu'à justement obtenir ce que nous disait Sophie, à savoir cette construction qui est d'une modernité absolument sidérante. Il va avoir les coudées franches pour le mettre en scène comme il veut. Il a Stewart avec lui comme interprète qui est incroyable. Il va réaliser le film dont il rêve, qui encapsule un petit peu combien lui se sent un peu perdu dans les États-Unis d'après-guerre. Et ça ne marche pas, ça précipite la fin de sa carrière. Et tout est foutu. Et je trouve qu'il y a là-dedans quelque chose de tellement triste et tragique et qui fait corps avec le discours du film que c'en est d'autant plus touchant.
Et il y a un truc intéressant, c'est que je vous parlais tout à l'heure des critiques, Letterboxd, etc. Mais en fait, c'est pas mal pour sentir le pouls de comment aujourd'hui les Américains considèrent le film. Et en fait, c'est hyper intéressant de voir que tout le monde considère aujourd'hui que c'est un film hyper optimiste. que c'est un
oui,
film.
Oui, je suis pas du tout d'accord.
Ah, mais moi, pas du tout. Pour moi, au contraire, le film te dit qu'il faut un miracle pour avoir happy end.
Il faut un ange pour pas se tirer une balle.
Bah, c'est vraiment ça que moi je ressens. Et c'est intéressant de voir que les Américains, pour eux, c'est devenu la figure même de l'espoir. Mais parce que justement, il arrive dans tout cet environnement dont vous parlez. Mais
c'est ni un film particulièrement optimiste ni pessimiste. C'est un film complexe. En fait, je pense que c'est pas un film niais. C'est pas un film qui a déjà. C'est pour ça que je parlais de fatalisme. Il y a rien de pire qu'un film qui acte dès le début ce que va être la traversée d'un personnage sans qu'il y ait aucunement un espèce de parcours initiatique ou autre. Là, c'est vrai que c'est un peu une espèce de descente lente aux enfers, mais nous, on a vu ce personnage se construire. On sait qu'il n'est pas seul. On sait que l'ange n'est là que pour être le miroir de sa propre vie. Il n'y a pas besoin d'un miracle. Il y a juste besoin qu'il ouvre les yeux. Pour moi, c'est ça qui fait la beauté du film. C'est notamment aussi, pour moi, ce qui rend le film optimiste, c'est la solidarité. C'est le fait qu'il soit aidé et aimé par une communauté parce qu'il les a aidés. Au final, je pense qu'on peut même parler de modèle économique d'une certaine manière un peu anticapitaliste sur le fait que, parce qu'il faut, il bosse dans une boîte de construction / prêt immobilier. Il est entre courtiers. En tout cas, il gère l'argent des gens, il leur fait des prêts pour construire des maisons et il les construit. Donc en fait, il est promoteur immobilier d'une certaine manière. En tout cas, c'est un métier un peu hybride. Mais on sent qu'il a cette vision très optimiste de pouvoir prêter même son argent personnel parce qu'il croit en la bonté des gens. Et c'est le moment où il a arrêté de croire en la bonté des gens qu'en fait tout se désagrège. Donc c'est là que le film n'est pas particulièrement ni niais ni optimiste. Juste, il a besoin de voir que les gens peuvent être là pour lui. Et c'est un film de Noël, hein, en tout cas. Oui, oui, oui. Mais je trouve pas que le film soit pessimiste.
En fait, ça dépend sous quel angle tu le prends. Parce que si je pense pas qu'il soit pessimiste, mais si tu le prends sous l'angle strictement fantastique, de fait, là, il devient complètement utopique. Quoi. C'est-à-dire que ce personnage, ouais, il est au bout de sa vie. Il y a rien qui va normalement empêcher sa déchéance. Et là, boum, un ange gardien tombe du ciel, ouais, et tous les problèmes sont résolus.
Une fois, il tombe pas, c'est parce que les prières des gens sont allées en haut.
Oui, mais en fait, non, mais c'est surtout que là où le film est intéressant, c'est que c'est un film qui nous dit, en fait, peu importe l'issue de ce personnage. Le personnage, il aura une issue positive parce que voilà, il y a ce besoin très très primitif presque et qui fait du film une expérience sensorielle et émotionnelle hyper forte. On a envie de le sauver et le film nous fait ce cadeau. Le film sauve le personnage qu'on a envie de sauver. Mais le fait est que même s'il se bute, même si ce personnage connaît la pire des fins, de toute façon, la ville restera ce qu'elle est parce qu'il a initié la solidarité. Mmh. Et ça, c'est la fin du film qui le prouve. La solidarité, d'un coup, fonctionne dans l'autre sens. Donc ça prouve bien que, de toute façon, il a semé quelque chose. Ça vivra avec ou sans lui, mais ça vivra. Et c'est ça où, pour moi, le film est optimiste. C'est un film qui nous dit, si à un moment dans votre vie, vous faites le bien, cette bonne action, elle va essaimer pour toujours, quel que soit votre destin, à vous. Et c'est pour ça que vous devez œuvrer pour le bien commun.
C'est une vision très catho aussi.
Ah bah complètement,
ça,
complètement
ça,
catholique.
Ça, pour le coup, on peut pas l'enlever.
On ne peut pas l'enlever, en effet. si vous n'avez pas vu La vie est belle de Frank Capra, foncez. Vraiment, effectivement, moi, je suis pas très film de Noël. Je dois dire que c'est un film qui me fait du bien. C'est vraiment un film qui me fait. Je trouve que c'est quand même assez rare ces films, et surtout en ce moment, qui redonnent un peu foi en l'espèce humaine. Et je dois dire qu'en ce moment, franchement, il faut pas se priver de ça.
Oh oui, mais je suis bien d'accord.
Il faut vraiment pas se priver
je
de ça.
Je suis bien d'accord.
Donc foncez voir La vie est belle de Frank Capra, surtout avec la très belle version Blu-ray 4K chez Paramount Pictures. C'est un film avec James Stewart et Donna Reed. Et puis vous pourrez comme ça nous dire en commentaire si vous êtes plutôt La vie est belle ou La vie la pute. Et joyeux Noël.
Et joyeux Noël.
Et puisque c'est bientôt Noël, notre carte blanche est aussi assez noëlesque, Sophie, puisque après avoir adoré Wonka la semaine dernière, tu voulais retourner faire un tour dans la turbine à choco avec Charlie et la chocolaterie, mais pas celui de Tim Burton. La turbine à choco, tu veux aller
la turbine à choco, ça fonctionne.
Tu veux nous parler du film de Stuart de 71.
Oui, je voulais vous parler de ce film-là, et notamment, c'est bien parce que, comme tu l'as dit, il y a Wonka qui est sorti, et j'avais peur de ne pas l'aimer parce que je faisais la carte blanche et je me disais ça va me mettre dans un mauvais mood, mais non, tout va bien, j'ai aimé le film. C'est bizarre de re-regarder un film de son enfance qui est très ancré dans une époque qui en plus n'est pas la sienne. C'est un peu comme remater Mary Poppins maintenant.
Ou Josiane 45 ans pour moi, ça me fait le même truc. Ouais.
Je comprends ton film doudou d'enfance, c'est un peu bizarre.
Doudou, c'est vraiment le bon mot. Si tu voulais tout ce qu'elle sort de son sac à main.
Les effets ont vieilli, mais je te rassure, l'actrice aussi. Donc j'ai revu pour préparer l'émission Le Charlie et la chocolaterie de Mel Stuart, un film qui est sorti en 1971. Et on parle souvent des grandes adaptations de livres. En tout cas, Simon en parle aussi beaucoup. Là, il se trouve que c'est assez rare, mais l'auteur original, à savoir Roald Dahl, a travaillé directement sur le film. Donc c'est un film qui a l'approbation de l'auteur. Donc qui a respecté ses thématiques, son idéologie, sa pensée, sa construction narrative. Je ne sais pas à quel point il était impliqué sur le choix des acteurs, mais j'imagine que ce n'était pas impossible. Et c'est drôle parce que c'est un film d'enfance que j'ai toujours trouvé extrêmement charmant et qui était un grand stimulant d'imagination, parce que cette chocolaterie qui est remplie de bonbons, de tasses qui se croquent, de fontaines de chocolat, c'était vraiment un espèce de lieu parfait pour imaginer que tout est possible. En fait, Charlie et la chocolaterie, c'est ça, c'est un personnage étrange, celui de Willy Wonka, qui va confronter son imagination à celle d'enfants qui, au final, ont une imagination bien moins pure que la sienne. Et ça, c'est assez intéressant. Le film, comme vous le savez, a eu un remake fait par Tim Burton il y a quelques années, qui est très différent, que j'aime beaucoup moins, mais qui n'est pas pour autant raté. Je voudrais pas dire que tout est complètement à côté de la plaque, et notamment, moi, si j'ai un attachement très particulier à Gene Wilder, qui je trouve a une espèce de malice et qui a donné un des plus beaux mèmes d'Internet avec son petit sourire en coin, je trouve que Johnny Depp en avait proposé une interprétation beaucoup plus dentiste / savant fou, avec des petits gants violets vraiment grinçant, mais rien ne vaudra jamais l'œuvre originale, celui de 71, notamment parce que c'est une vraie comédie musicale. Il faut savoir que ça s'inscrit pour moi dans ces grands films d'enfance. J'ai cité Mary Poppins, mais on peut citer aussi L'Apprenti Sorcière et tous ces films qui mélangeaient pendant un temps la comédie musicale, le cinéma d'animation et les films live. Et je trouve que c'est un film qui se regarde et qui se re-regarde avec beaucoup de plaisir, parce que je trouve que les chansons sont encore magnifiques, et il y a une vraie tristesse dans l'original, notamment sur la pauvreté de Charlie, qui est quelque chose qu'on retrouve plus vraiment dans le cinéma pour enfants aujourd'hui. C'est très ancré dans une époque, dans notamment le cinéma des années 70, et je trouve qu'il y a un des plus beaux thèmes musicaux qui est repris dans mon cas d'ailleurs, et je vous encourage à le découvrir. Et sachez qu'il est quand même assez jeune public compatible. Dès 6-7 ans, c'est un film qui peut créer du débat, qui peut créer des interactions, notamment sur qu'est-ce qui a vieilli dans un film, parce qu'il y a par exemple dans l'original, malgré tout, un peu de grossophobie, il y a des dialectes qui marchent plus vraiment, mais pourtant il y a une magie qui perdure, et je trouve que c'est intéressant de voir comment ça peut être une bonne œuvre, porte d'entrée pour discuter de l'évolution d'une œuvre. Et après, vous pouvez faire lire Charlie et la chocolaterie, qui est aussi très accessible pour les tout-petits, ou le lire avec eux. Donc je vous encourage tout le package, et s'ils aiment, bah, allez voir Wonka en salle, et ce sera aussi un bon moment pour les petits. Je trouve qu'il y a un bon package à faire. Voilà, c'est tout. C'est un très bon film d'enfance.
Eh bien, n'hésitez pas à revoir donc ce Charlie et la chocolaterie de Mel Stuart. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Et puis, bah, c'est tout pour cette année, quasiment.
Alors, quasiment.
Pas tout à fait. Pas tout
Champagne
à fait.
Ah non, c'est
non,
pas ça.
Pas tout de suite. On va pas vous abandonner. Tout à fait, on vous abandonne pas. On était là cet été, on sera là cet hiver. On va, et vous n'y couperez pas, passer par les fameux top et flop. Et figurez-vous que ça va être amusant cette année, parce que les top flops, c'est toujours un peu consensuel. C'est « Ah oui, c'est super, le film. » Eh ben non, vous allez voir, parce que non seulement on n'est pas d'accord, non seulement on n'est pas d'accord, mais pas d'accord. Mais en plus, j'ai préparé et j'ai organisé l'émission d'une façon qu'ils ne connaissent pas, dont ils ne sont pas au courant, et pour faire en sorte que ça se termine en octogone. Donc ça va être assez rigolo, ça va être fête de Noël, mais à coup de bûche dans la gueule, en fait. Donc c'est un peu ça, en fait, l'ambiance un peu électrique. On va avoir un peu de tension, un peu de transpire, ça va être sympa. Pardon, je suis fatigué, il faut que je me repose, moi. Oh là là.
Abonnez-vous, parce que c'est peut-être le dernier épisode
de moi, en tout cas.
Peut-être le dernier Noël de Nico.
Bye les amis, excellente fin d'année à vous, où que vous vous trouviez, avec qui que vous vous trouviez. On vous envoie toutes et tous d'énormes bisous, et surtout, gloire au présent.
Messieurs, il n'est de bonne société qui ne se quitte.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.